Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Et oui, c'est la mauvaise nouvelle du lundi. Netflix a bien l'intention de se lancer dans la chasse aux comptes partagés. Le service de streaming veut récupérer plus de sous et faire payer les utilisateurs qui profitent des identifiants des copains. On y revient dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Anthony va tenter de nous expliquer le pourquoi du comment de la gravure dans les puces. Oui, vous avez sûrement entendu parler de 5 nanomètres, de 3 nanomètres. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça change? On va tout vous dire. Nous sommes le lundi 23 janvier. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Si vous partagez généreusement votre compte Netflix avec des amis qui n'habitent pas chez vous, il va falloir se préparer à l'inévitable. Le service de streaming va en effet se lancer dans la chasse au partage de comptes, ça ne va pas tarder à annoncer Netflix pendant ses derniers résultats financiers. La plateforme a l'intention de faire payer les abonnés qui refilent leurs identifiants, ça coûtera quelques euros par compte partagé, on ne connaît pas le prix encore. Mais ça devrait être assez cher, l'idée c'est de pousser l'abonné à arrêter de partager son compte après tout. Reste à savoir comment Netflix compte s'y prendre pour repérer les malandrins. Ça sera a priori un mix d'adresses IP avec des données d'utilisation du service. Quand Netflix détectera un usage en dehors du foyer, la plateforme va envoyer un code de confirmation à l'abonné. Et c'est ce code qu'il faudra saisir dans l'appareil de l'utilisateur qui regarde du contenu illégalement, on va dire. Y a de quoi péter les plombs. Ça ne va pas très fort en ce moment dans le secteur des technos avec des vagues impressionnantes de licenciements annoncés par Microsoft, par Meta ou encore Amazon. C'est loin d'être terminé d'ailleurs vu que Google a aussi dévoilé un gros plan social. Alphabet, qui est la maison mère de Google, va donc supprimer 12 000 postes, rien de moins. Sundar Pichai, le patron du groupe, assume la responsabilité de cette décision, ce qui fera sûrement une belle jambe à tous ceux qui ont perdu leur emploi. Il risque d'ailleurs d'avoir un peu de mal à retrouver un job vu que tout le monde licencié à tour de bras dans les entreprises de la tech. La raison de cette charrette sociale chez Google est la même que pour les autres boîtes. Pendant la pandémie, le moteur de recherche a beaucoup embauché alors que la croissance était explosive. Mais maintenant qu'on peut vivre à peu près normalement, eh bien la réalité économique est bien différente. Et ça va pas s'arranger entre les prix qui grimpent et qui réduisent le pouvoir d'achat des utilisateurs. Ça ne veut pas dire que Google va soudainement arrêter de faire tout un tas de trucs, mais il faut s'attendre à une réduction de la voilure sur les appareils et sur certains services. D'ailleurs, Stadia en a fait les frais, le service de streaming a fermé ses portes la semaine dernière. Du côté d'Apple, tout va à peu près bien, il n'y a pas eu de gros plan social pour le moment. D'ailleurs, puisqu'on parle de Google et de ses difficultés du moment, on va évoquer Fitbit, qui appartient à Alphabet depuis 2 ans. Là aussi, bah, ça va pas très fort, on a l'impression que Google est en train de vider la substantifique moelle du constructeur de montres et de bracelets connectés. Petit à petit, les produits de Fitbit perdent des fonctions, comme par exemple les applications Deezer et Pandora tout récemment. Le problème, c'est qu'il n'y a plus non plus de possibilité de stocker de la musique en local sur les montres de Fitbit. En septembre dernier, on apprenait aussi que les nouveaux modèles du constructeur seraient tout simplement privés de Wi-Fi. Ça commence à se voir que Google est en train d'enterrer Fitbit. Il faut dire que le moteur de recherche a lancé sa propre montre connectée, la Pixel Watch, mais elle ne peut pas remplacer tous les produits de Fitbit pour le moment. Du coup, eh bien, il faut s'attendre à une mort lente et douloureuse pour Fitbit. On parle souvent sur MacG de la finesse de gravure des puces d'Apple, avec des chiffres de plus en plus petits, qui ne vous évoquent peut-être pas grand-chose. C'est pourtant un des plus grands enjeux technologiques de ces dernières années pour les smartphones et pour les ordinateurs. Celui qui fait investir des milliards et des milliards de dollars chez Intel, TSMC, Samsung ou bien sûr chez Apple. Avec Anthony, on va faire le point ou essayer de faire le point sur cette problématique, histoire de partir du bon pied. Salut Anthony!
Salut Mickaël, salut à tous.
Alors, j'ai une question à la fois simple et compliquée pour toi. Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de la finesse de gravure dans la puce de mon iPhone ou de mon Mac?
Parce que t'aimes te faire mal à la tête?
Voilà, c'est vrai.
Pour résumer très 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 grossièrement, et on va résumer très 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 grossièrement aujourd'hui, une gravure plus fine permet de réduire la taille des transistors. Jusque-là, c'est simple. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, si la puce A16 des derniers iPhones était gravée à la même finesse que l'Intel 4004, qui est le premier microprocesseur, elle ferait la taille d'un très très bel appartement.
Ah oui.
Donc forcément, il faut réduire la finesse de gravure. En réduisant la taille des transistors, on réduit aussi les surfaces de déperdition énergétique. Puis généralement, on réduit la tension de fonctionnement. À la fin, c'est ce qui permet de concevoir des circuits qui consomment moins et qui dégagent moins de chaleur. à nombre de transistors constants, ou bien des circuits qui possèdent un plus grand nombre de transistors, et donc une plus grande puissance de calcul, à consommation constante. Ouais. Ce que font les fabricants, c'est qu'ils arbitrent entre les différents axes de progression. Bah, est-ce qu'on veut une puce un peu plus puissante, un peu plus économe ? Est-ce qu'on veut une puce beaucoup plus puissante, mais pas beaucoup plus consommatrice ? Ouais. On cherche. Qui dit plus petit circuit, dit aussi plus de circuits sur un même wafer. Les wafers, c'est ces disques de silicium qui font 30 cm de diamètre pour 775 micromètres d'épaisseur. C'est là-dessus qu'on grave les circuits. Ouais. Donc forcément, si on en met plus sur un même wafer, ça fait des puces moins chères. Et puis qui dit circuit qui consomme moins, dit qu'à la fin, les appareils ils ont plus d'autonomie sans mettre des plus grosses batteries.
Dans le grand match mondial entre les fondeurs, Intel a l'air à la ramasse, alors que TSMC continue de faire la course en tête avec des gravures toujours plus fines. Mais cette guerre technologique, elle peut rapidement tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre sans prévenir.
Oui, chaque réduction de la finesse de gravure, elle forme ce qu'on appelle un processus ou un node en anglais, selon des critères qui sont définis par une association qui a un nom très très long, l'ITRS. Ces dernières années, on est passé de 22 nanomètres à 14, puis ensuite de 14 à 10, et puis ensuite de 10 à 7, puis maintenant de 7 à 5, puis on parle de la suite. Mmh. Ces chiffres, ils sont pas choisis au hasard. En fait, ils ont tous un rapport de racine de 1,5 pour 1, oui. Ce qui correspond en fait à un doublement du nombre de transistors à surface égale, c'est-à-dire la définition de la loi de Moore. C'est pas du tout une loi, c'est juste un truc qu'on a sorti de son chapeau, et on fait en sorte que quand on construit des transistors, ça réponde à peu près à la définition de cette loi. Mmh. Or, ça défile super vite. TSMC avait très largement raté le 20 nanomètres. Ouais. Intel a eu beaucoup, beaucoup de mal à finaliser son processus 10 nanomètres. Samsung était complètement en retard pour le 7 nanomètres. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que TSMC domine tout le monde sur le 7 et le 5. Bon, enfin, au final, Intel n'est pas si en retard que ça, Samsung non plus d'ailleurs, tout simplement parce que ces chiffres ne veulent rien dire. quand on parle de finesse de gravure, on parle uniquement du procédé, du node, on ne parle pas du tout de la taille des composants. Les composants qui sont produits avec le process 7 nanomètres de TSMC, ils ne sont pas beaucoup plus petits que ceux qu'Intel produit avec son process à 10 nanomètres. Ce qui compte, c'est surtout la capacité de production en ce moment, et TSMC a pris l'ascendant ces dernières années, parce qu'en fait, ils ont très très vite compris l'intérêt de nouvelles techniques de gravure, et ils ont complètement saturé le carnet de commandes des très rares entreprises qui conçoivent les machines qui permettent de graver les puces, notamment une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML, dont TSMC est aujourd'hui un des clients principaux. Ouais. Donc TSMC a raflé la mise quelque part, mais technologiquement, ils sont pas forcément beaucoup, beaucoup en avance sur Intel et Samsung.
Apple a annoncé que la puce M2 Pro, qui équipe le Mac Mini et les derniers MacBook Pro, est gravée en 5 nanomètres de deuxième génération, ce qui veut tout dire et pas grand-chose finalement. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ?
Si tu me permets de ruer dans les brancards, oui. J'ai lu beaucoup de monde fantasmer sur des rumeurs qui mentionnaient des puces gravées à 4 nanomètres. Oui. Et bah, c'était des grosses conneries. je vais prendre un exemple qui est celui des capteurs photo. On a arrêté de parler de capteurs, par exemple, je sais pas moi, 1 sur 1 tiers de pouce. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y a aucune dimension dans le capteur qui correspond à ça. Il n'y a rien qui correspond à 1 sur 1 tiers de pouce. Donc maintenant, on parle plutôt de capteurs de type 1 sur 1 tiers. Mmh. C'est pareil avec les finesses de gravure. Faudrait arrêter de parler en nanomètres et plutôt reprendre le nom des nodes, des processus. TSMC, il parle de N7 et N6 pour le 7 nanomètres. Ouais. Aujourd'hui, pour le 5 nanomètres, il parle de N5 et N4. Et il y a tout un tas de variantes avec des chiffres et des lettres. Enfin, c'est très compliqué. Quand Apple dit deuxième génération de 5 nanomètres, ça veut dire probablement qu'elle utilise un des processus N4, et TSMC a annoncé plusieurs optimisations pour les années qui viennent. Mmh. Au passage, tout à l'heure, je parlais de taille. Le pitch, c'est la distance entre le centre de deux transistors. Pour le processus N7, c'était 40 nanomètres. Pour le processus N5, c'est 28 nanomètres. On voit bien que parler de processus 5 nanomètres, quand on a un pitch à 28, c'est ultra trompeur, quoi. Mmh. Et selon la manière dont on mesure la taille des transistors, bah, finalement, Samsung et Intel, ils font légèrement mieux ou légèrement moins bien, c'est-à-dire pareil.
Ouais. Après les 5 nanomètres, donc, la prochaine étape, c'est le 3 nanomètres. Et TSMC a dévoilé sa feuille de route pour ce chantier. Il ne fait pas de doute que Apple va utiliser ses puces de 3 nanomètres dans ses futures puces et peut-être même dès l'iPhone 15 l'année prochaine. Et c'est devenu un argument commercial comme la fréquence d'horloge avec, pour un processeur ou la quantité de mégapixels pour les capteurs photo. Mais pour l'utilisateur, est-ce que son quotidien va être bouleversé par cette gravure ?
Je disais tout à l'heure que le secteur bougeait très vite. TSMC a eu beaucoup, beaucoup de mal à finaliser son processus N3. On sait que les feuilles de route d'Apple, mais aussi celles d'AMD et d'Intel, qui sont des clients de TSMC, ont été assez perturbées. Au départ, était prévu un node qui s'appelait N3B, qui n'a pas du tout atteint les objectifs fixés par TSMC, qui s'est plutôt concentré sur un autre node qui s'appelle N3E. Mmh. Selon la variante choisie, parce qu'on parle de N3E, mais en fait, il y a tout un tas de variantes derrière, ça devrait permettre de réduire la consommation d'un tiers à puissance égale ou d'augmenter la puissance d'un tiers à consommation égale. Donc, on voit que c'est quand même... Enfin, c'est bien, hein, mais c'est pas non plus renversant. Ce qui est intéressant, c'est que TSMC permet d'associer différentes variantes sur une même puce, ce qui est très bien pour Apple. Elle pourra utiliser... la variante la plus performante pour les cœurs performants, la variante la plus économe pour les cœurs économes. Mmh. Mais enfin, c'est clairement pas pour tout de suite, et il y a un vrai point d'interrogation sur la capacité de TSMC à industrialiser tous ces processus à l'échelle demandée par Apple. Mmh. Et puis on parle de N3, c'est bien, mais enfin, TSMC, à la fin, il conserve une très grosse capacité pour le N7 et le N6. Mmh. Or, il y a beaucoup de puces à signaux mixtes, c'est des puces qui ont à la fois des circuits analogiques et des circuits numériques, qui sont restés à des processus très anciens, qui sont aujourd'hui gravés à 28 nanomètres. Ouais. On est loin de 3 nanomètres. Et c'est un gros enjeu pour TSMC qui vient d'annoncer des résultats catastrophiques, notamment à cause d'Apple. Un gros enjeu, ça va être de pousser ses fabricants, de passer du 28 au 7 nanomètres. Le patron de TSMC, C.C. Wei, mentionnait notamment les puces Wi-Fi. Et on sait qu'Apple s'intéresse beaucoup aux puces Wi-Fi et aux puces 5G. Et donc, on va peut-être aussi descendre, avant de parler du 3 ou du 5 nanomètres, à 7 nanomètres sur ces puces-là. Mmh. Il y a un paquet de composants autour du système sur puce, il faut aussi y penser. C'est peut-être là que ça va se jouer dans les prochaines années.
Jusqu'où cette course à la finesse va aller? Est-ce qu'on peut encore descendre sous les 3 nanomètres?
TSMC parle déjà de N2 pour 2025, alors qu'ils ont du mal avec le N3. Et puis Intel commence à parler en Angstrom, c'est l'échelle en dessous du nanomètre, pour prévoir justement le moment où on passera sous le nanomètre. Ça se fera avec de nouveaux types de transistors, ça se fera probablement avec d'autres matériaux que le silicium, ou en tout cas pas que avec du silicium. C'est un vrai joli défi scientifique. C'est aussi un sacré défi industriel, parce que ça va se faire dans un monde qui est très différent de celui où ces feuilles de route, un chouïa utopique, avait été fixé. Un monde qui a un tout petit peu plus conscience qu'avant des limites de la logistique mondiale et accessoirement des effets du changement climatique. Mmh. Je parlais tout à l'heure d'ASML, qui est à peu près la seule entreprise qui maîtrise les procédés optiques qui permettent d'atteindre ces finesses. Leurs machines, c'est des monstres à 150 millions de dollars qui consomment entre 1500 et 2000 litres d'eau à la minute. Mmh. Et on parle de consommation d'énergie cet hiver, un demi-mégawatt à l'heure, tout ça pour produire 1500 wafers par jour. De ces machines-là, pour les process N5 et N3, il en existe 100 dans le monde. Oui. Donc on voit que c'est pas énorme. La liste d'attente chez ASML, elle embête beaucoup de fabricants, et on a vu comment des phénomènes climatiques, et notamment des difficultés d'approvisionnement en eau, ont posé d'énormes problèmes chez TSMC. Aujourd'hui, on joue à l'échelle de quelques atomes sur un système sur puce. Et vous savez quoi? Le moindre petit grain de poussière peut enrayer toute l'industrie. Mmh. Ça va être assez fascinant à observer ces prochaines années, parce que c'est pas juste de la science, c'est aussi de l'industrie, c'est aussi de la logistique. Et c'est pas forcément sur le plan scientifique que ça va coincer. Ouais.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. J'espère qu'on a pu éclairer un peu votre lanterne sur ce sujet complexe et pourtant si important, que ce soit pour l'ensemble de l'industrie ou évidemment pour les utilisateurs. Salut Anthony.
Salut Mickaël, bon cachet d'aspirine à tout le monde.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.